Bonjour à tous. J'aimerais juste démarrer avec un témoignage. Ce matin, tout d'un coup, Jean-Marc parlait. Quand est-ce qu'on a rencontré l'amour de Dieu en premier, était conscient de l'amour de Dieu? Mes premiers mois de conversion ont été assez sportifs, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que ça m'arrivait dans certains combats spirituels de dire, ah mais tiens, vraiment, il y a l'amour de Dieu. Mais la première fois où j'ai réalisé, voilà, Dieu m'aimait moi, c'est quand j'ai dû changer de métier. Quand je me suis converti pendant 2 ans, on va dire ça comme ça, j'avais fait un effondrement intérieur, nerveux, j'avais une tension très basse et je n'avais plus de force. Je ne pouvais pas fermer le poing comme ça. Et quand je me suis converti d'électricien, je suis devenu jardinier. Et un matin, je devais me lever et aller au travail comme jardinier. Et puis la veille, le soir, Seigneur, un jardinier qui n'a pas de force, je fais comment? Juste pour vous dire que j'avais renoncé, moi, à vivre en famille, renoncé à la société, renoncé à plein de choses. Et puis, il fallait, comme on dit, rentrer dans le rang, s'insérer dans une vie sociale normale. Et puis, un soir, plus de jus, il n'y avait plus rien. Puis vraiment, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux bien t'obéir, je veux bien travailler, je veux bien me réinsérer dans la société. Mais demain, je fais comment pour bosser? Voilà, et vraiment, un soir, une onction de Dieu, d'amour, qui est venue sur ma vie. Puis là, j'ai réalisé, ah, Dieu m'aime au point de restaurer mes forces. Et depuis 45 ans, il y a du jus, il y a de la force. Ça fonctionne. Voilà, c'était juste, je voulais vous partager ce petit témoignage. Dieu nous aime de multiples manières. Et il a de multiples manières et raisons de nous le faire connaître en tout temps et toutes circonstances. Même dans des circonstances où à l'intérieur, il y a quelque chose qui est effondré, qui ne fonctionne pas, Dieu est le Dieu qui restaure. Il doit y avoir 2 semaines exactement, j'avais à cœur de vous parler de l'Église. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est un week-end de Pentecôte. Voilà! Le jour où le Saint-Esprit est tombé et que ça a formé la première Église. Là, je me disais ce matin, en me levant, tiens, le don du Saint-Esprit, ce premier don qui a. Est-ce que c'est la date de création de l'Église? Est-ce que Pentecôte, ce n'est pas aussi la fête de l'Église? Bien sûr, c'est la fête de l'Esprit-Saint, c'est l'Esprit-Saint qui est venu en nous, mais il est aussi celui qui a créé l'Église, ce corps de Christ. On avait lu, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les frères, les femmes, Marie, mère de Jésus, les frères de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il me semble que le Seigneur, ce matin, s'est aussi manifesté avec des langues nouvelles, avec des paroles prophétiques. C'est Pentecôte. Mais c'est aussi la réalité de l'Église. J'explique souvent mes premiers mois de conversion, j'ai dévoré l'écriture à vitesse grand V. Et en lisant les actes, l'été 74, vraiment quelque chose s'est imprimé en moi. Connaître Christ, c'est connaître c'est aimer le corps de Christ, l'Église. Et pour moi, depuis 45 ans, il n'y a pas de relation avec Christ, avec la tête, sans qu'il y ait de relation avec le corps, avec l'Église. En ce moment, au niveau politique, on utilise des images. Bon, il y a des partis politiques qui sont un petit peu dans la tourmente. Et puis on dit, c'est un peu un canard. La tête est coupée, le corps continue toujours à remuer. Peut-être parfois à l'Église, c'est un peu ça. Est-ce que ce matin, par le Saint-Esprit, je suis baptisé dans le même esprit pour former un seul corps, former ce corps de Christ. Être rempli de Christ, pour moi, c'est aussi être rempli, c'est vivre l'Église. Parfois, l'Église, c'est presque un gros mot pour certains. Pour certains, l'Église, c'est ma relation avec Dieu en premier. L'Église, après, c'est parfois plus compliqué. Et c'est vrai que parfois, notre relation à l'Église a pu ou peut être difficile. Il n'en reste pas moins vrai que cette réalité, elle reste dans le cœur de Christ et dans le cœur de Dieu. Dans Acte 9, les versets 30 à 31. Les frères l'ayant su, ils l'emmenèrent à Césarée, ils le firent partir pour Tarse, il est question de l'apôtre Paul, de Saül. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Est-ce que c'est une réalité de grandir dans tous les domaines de la vie en qualité, en quantité? Est-ce que cette parole nous touche encore aujourd'hui? Et est-ce qu'elle nous amène à prier, Seigneur, que ton esprit se répand sur toute la terre, sur tout le peuple? Ma prière, c'est, Seigneur, que chaque peuple ait ta parole dans sa langue, que chacun puisse toucher, puisse lire, puisse goûter à ta parole. Que l'Église puisse s'édifier, marcher, s'accroître par l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des régions entières où l'Église aujourd'hui est en opposition avec des nationalismes, avec d'autres religions, avec pour certains c'est difficile. Prions pour que sur tous les continents, l'Église puisse s'édifier, marcher dans la crainte du Seigneur et s'accroître, grandir par l'assistance du Saint-Esprit. Chapitre 11, verset 26. Tout doit être sur la liste, Valentin. L'ayant, voilà, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour y chercher Saül. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. L'Église s'est construite petit à petit et elle s'est fait connaître comme étant chrétienne. Chrétiens. Nous portons un nom extraordinaire depuis à peu près un peu plus de 19 siècles, 20 siècles, bientôt. À Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que les gens, quand ils passent devant ce lieu, se disent « Ah oui, là, il y a des chrétiens ?» Ils disent souvent « C'est difficile d'entrer dans une église. » Quelle qu'elle soit. Parfois, on sait que les grandes églises catholiques, orthodoxes, sont ouvertes, les gens y vont. Parfois, c'est pour les cultures, pour le décor, pour... Dimanche dernier, j'étais à Porto. Je suis entré dans des églises pour les visiter, dans des églises catholiques, mais il y avait le service. Je me suis assis au fond et puis simplement passé un moment dans un service d'une autre... confession, ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Quand les gens passent devant ce lieu, quand ils nous rencontrent, peut-être que pour eux, pour la première fois, ils peuvent rencontrer des chrétiens et au travers de nous, rencontrer le Christ. Il y a 2 semaines, on avait essayé d'avoir une approche un peu originale de l'Église. Vous avez lu toutes les entrées et les sorties des lettres de Paul. Je vous rappelle juste que quand l'Église est née, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion. On se déplaçait à pied sur un âne, ou accompagné d'un âne, ou bien en bateau. Du temps de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de mail. Et pourtant, l'Église s'est développée avec des écrits, avec des lettres. Et nous avons ces lettres encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais juste prendre le temps, même si ça va être assez rapide, de vous parler de l'Église, peut-être d'une autre manière. J'aimerais vous laisser 12 images de l'Église qui nous parle de l'Église, notre rapport avec le Christ, avec Dieu, avec le royaume de Dieu. Je vais vous énumérer ces 12 images. J'espère qu'il y en a qui vous resteront. Puis après, on les verra juste avec un texte biblique. Et à chaque fois, je vous poserai la question, est-ce que vous êtes sensible à cette image que l'Écriture nous donne de l'Église? Comme ça, on pourra voir sur peut-être 12 images. Voilà quelles sont celles qui, aujourd'hui, on dit qui matchent le plus, qui nous impriment le plus. Je vous propose de démarrer avec Éphésiens au chapitre 5. Il va falloir que je jongle dans ma Bible avec tous ces textes. Tous ces textes vont être affichés. Éphésiens 5, 22, 27. Je me suis demandé si je lisais ce texte, parce qu'en même temps, c'est un texte sur le rapport avec Christ, mais aussi le rapport homme-femme. On ne va pas parler du rapport homme-femme, mais du rapport qu'on a avec Christ. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il est question là de l'Église qui est le corps de Christ. Ça vous fait quoi d'être relié à Christ en étant son corps? Pas comme le canard dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est aussi une blague de Fernand Reynaud quand j'étais jeune. Hein. Le gars essaye de tuer le canard et puis il y a cette petite ritournelle. Le canard était toujours pas mort. Mais là... Parfois, on a l'impression que les chrétiens sont un petit peu coupés de la tête. Comment est-ce que l'Église va s'accroître par le Saint-Esprit si on n'est pas relié à la tête? Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que quand je suis dans l'Église, je le vis aussi comme un temps d'amour avec le Seigneur? Depuis que je sais que Christ aime l'Église, s'est livré pour elle, mon appel a toujours été très clair. Si tu veux ça, c'est quoi servir Dieu? Bien, c'est servir le corps de Christ. Voilà, au-delà des structures, des organisations, des dénominations, des chapelles, c'est quelque chose de plus intime, de plus intérieur. Aimer Christ, c'est aimer l'Église, parce que Christ l'a aimée, s'est livrée pour elle. Quand Christ était sur la croix, il pensait à nous tous, il pensait à l'Église qui allait se développer, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte, irréprochable. Il y a quelque chose ici ce matin qui est saint, qui est glorieux, qui est sans tache. C'est le regard que Jésus a sur nous ce matin. On peut s'en imprégner, on peut s'en imbiber. On peut demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi la réalité, fais-moi toucher cette réalité. Qui parmi nous est semblable à cette image du corps de Christ? Allez, je vais... Il y a comment? 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Est-ce que cette image vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui prend place, qui se développe? On pourrait lire encore Corinthiens 12, 14, mais je vais passer parce que le temps passe. Une autre image de Christ, le troupeau, le petit troupeau, et bien sûr, ça nous parle de berger, de brebis. Au-delà du psaume 23, on prend un texte dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 2 et 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme en étant le modèle du troupeau. Paissez le troupeau de Dieu. On partage encore dans Luc, au chapitre 12 du texte sur le troupeau. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. J'aime beaucoup cette parole. C'est quelque chose d'intime, de plus proche peut-être, presque un mot d'amour, petit troupeau. Le Seigneur a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce matin, quelque chose du royaume de Dieu est présent au milieu de nous. Plein d'autres textes, on n'a pas le temps de les lire. Acte 20, 28, Jean 10, 16. Allez, je prends Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Parfois, quand on lit l'Écriture, on croit rêver, on se dit « Waouh ! Ce serait tellement super !» Quand Dieu voit tous les chrétiens dans le monde entier, il voit un seul troupeau. Il ne voit pas toutes les bergeries, toutes les chapelles, toutes les différences, toute la diversité, mais il voit tous ceux qui lui appartiennent. Qui est sensible à cette image du troupeau, à qui ça parle ? Oui, voilà, ouais, c'est presque plus que tout à l'heure. On continue. Maison, temple, habitation, édifice, pierre d'angle, fondation, Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Je vais vous laisser 12 images. Bon, ce chiffre-là m'arrangeait. Hein. Je me suis dit, c'est un chiffre un petit peu symbolique. Mais... Éphésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation, pour être une habitation de Dieu en esprit. Tout ce qui est là du domaine de la construction. Ça vous parle ? Oui, ça doit. Ça parle à Pascal. Pascal, il lève la main. Ouais. À qui ça parle, cette image ? Alors, je disais peut-être parfois plus les hommes à cause de tout ce qui est question de construction, de pierre d'angle. Rêvez peut-être comme moi un jour, hein, je disais ça la dernière fois, mais d'avoir une maison en pierre. On continue, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 5, 1 Pierre 2, 2, 9, il faut que je, pas que je me mélange, non mais 1 Pierre 2, 2. À 9. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il le dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. » Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce que des textes comme ça vous enthousiasment pour vous sentir bien dans le peuple de Dieu, bien dans la construction de Dieu, une pierre vivante? Ah, c'est une image un petit peu... principe, les pierres, c'est statique. Mais Dieu dit, là, il y a quelque chose de vivant dans cet édifice qui se renouvelle. Qui est-ce qui est sensible à Valentin, ouais. Qui est sensible à ces images? Je vous relis. Hein. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pierre vivante, maison spirituelle. L'épouse. Jean 3, 29. Ça va. On a fait à peu près la moitié. Jean 3, 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'entend éprouve une grande joie aussi à cause de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Parfois, moi, j'ai un petit peu plus de peine avec cette image de l'Église. Je ne sais pas vous, comment vous vivez cette... Alors, je ne sais pas la différence homme-femme de rapport à cette image époux, épouse. Moi, Calin Michel, un homme, je suis l'épouse de Christ. Ça me parle un petit peu moins que... Mais c'est, voilà, c'est une image qui nous parle de la réalité, de la relation homme-femme. Quelque chose aussi d'intime, de proche, de profond. Le lien homme-femme, époux-épouse, est un lien qui est fort. Alors ça parle peut-être, Jean-Marc aime bien utiliser cette image-là, l'image de l'alliance, qui est semblable, qui est touchée par cette image de l'époux, d'épouse. Ouais, sans plus, pas Diana, ouais. Ça ne vous parle pas trop comme image. Bon. Fiancé, 2 Corinthiens 11, 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On a lu tout à l'heure un texte qui disait qu'on était saint, pur, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Une image là qui parle de pureté aussi dans le rapport homme-femme. Dans l'Ancien Testament, la relation avec Israël est souvent liée à cette image de la fiancée. Voilà, qui serait sensible à cette image de la fiancée? Ouais. Voilà, bon, ça en fait une autre. Une, alors plus connue, disciple, serviteur, ami. Jean 15, 15. Texte connu. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé ami. Une belle image, et Actes 11, 26, on l'a lu tout à l'heure, hein, il est dit que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ça vous parle, l'image de disciple? Oui, voilà, on va être nombreux. C'est souvent l'image la plus développée pour parler de l'Église. Sarment, cèpe, fruit, vigne. On reprend Jean 15. Je suis le vrai cèpe, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, à qui ça parle cette image? Voilà, pas mal aussi, hein. C'est les images, voilà, très très utilisées. Une autre peut-être qui est moins connue. 1 Timothée 3, 15, on va la lire en direct, et vous allez découvrir cette image de l'apôtre Paul que personnellement j'aime beaucoup. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. J'aime beaucoup ce texte de l'Écriture depuis le commencement de ma vie chrétienne. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. L'Église est quelque chose de beaucoup plus grand que ce que l'on pense. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un parti religieux, ce n'est pas une association, c'est quelque chose qui tient du projet de Dieu. C'est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que l'Église a été comme ça tout au long des siècles? On voit que la colonne a été parfois un peu comme la tour de Pise, penchée du côté où ça allait tomber. Voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup cette image. Est-ce qu'il y en a d'autres qui la partagent? Je trouve que c'est vraiment une très belle image. J'aime beaucoup cette parole de Paul. L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Être fidèle, c'est aussi cela. Deux dernières images. Champs, épis de blé, moissons, semences, grains, dans l'évangile de Marc. Au chapitre 4, c'est aussi lié au royaume, hein, mais bon, j'ai pris ces images au sens large, tout ce qui nous parle de notre relation avec Dieu. Marc chapitre 4, 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme, qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. J'ai toujours aussi beaucoup aimé cette image depuis le début. On sème du blé, des céréales, et puis une fois que c'est semé, eh ben on attend que ça pousse. Et heureusement que ça pousse. J'aime beaucoup cette image. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, les puits, puis le grain tout formé dans les puits. Peut-être que c'est lié à mon statut de jardinier, mais j'aime tout ce qui pousse. Toutes ces images, ça porte du fruit, ça nourrit. Matthieu 13, on ne va pas le lire, hein, il en est comme d'un homme qui sema sa semence, puis Jésus dit, cette semence, c'est la parole de Dieu, et puis les oiseaux sont venus, l'ont mangé, les rangs sont venus, l'ont étouffé. C'est quelque chose de fragile, la semence. Et puis en même temps, quand ça pousse, c'est quelque chose d'extraordinaire. On lit encore Matthieu 9, 37, 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Qui serait sensible à cette image de la moisson? C'est une belle image et assez large. On a fait 11 images, une douzième, et puis on va terminer là-dessus. Nous sommes ouvriers, l'œuvre, l'ouvrage de Dieu, le champ, l'édifice, le fondement, le temple. 1 Corinthiens 3, on va chez Paul. 1 Corinthiens 3, 9, 10. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ensuite, il est question de bâtir avec des matériaux précieux. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes l'œuvre, l'ouvrage de Dieu, quelque chose d'extraordinaire. Et on termine avec Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Qui serait sensible à cette image ? Ouais. Je vous rappelle hein, ces 12 images, et puis je vous laisserai réfléchir, méditer avec. Peut-être qu'elles reviendront vous et dire ah oui, tiens, tel aspect. Voilà 12 aspects de l'Église. Le corps de Christ, troupeau, petit troupeau, berger, brebis, maison, temple, habitation, édifice, pierre d'angle, fondation. Pierre vivante, maison spirituelle, pierre principale, pierre d'angle. Race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis. L'épouse, la fiancée, disciple, serviteur, ami. Sarment, cèpe, fruit, vigne. Colonne, appui de la vérité. Champ, épi de blé, moisson, semence, grain. Ouvrier, œuvre, ouvrage. Oui, parfois, on a peut-être une idée de l'Église qui est... Parce qu'on regarde l'organisation, les dénominations, puis parfois peut-être ça peut nous décourager. 12 belles images de l'Église qu'on trouve dans l'Écriture. Que ça puisse nous encourager ensemble à vivre l'Église. Si vous voulez vous rappeler de tout et que vous n'avez pas pris de notes et que vous ne vous en rappelez pas, c'est manuscrit, hein, mais vous avez des photocopies là. Vous pourrez en prendre une et puis vous retrouverez tout cela dessus.